On s'est senti à l'aise tout de suite. Moi, j'étais pas. Pourtant, je suis parti, j'avais 10 ans, mais je me suis senti à l'aise tout de suite. Bon, ma mère, n'en parlons pas. Et puis, ma femme qui nous accompagnait, enfin, qui m'accompagnait, bien sûr, eh ben, elle a aussi beaucoup aimé ce voyage. Voilà, on débarque de l'aéroport et on se sent presque chez soi. Voilà, les odeurs, les rues, rien n'a changé, quoi. Et les Tunisiens sont toujours aussi charmants, toujours super. On se retrouve. On n'a pas besoin de poser des questions, on se pose pas de questions, on est comme de retour à la maison et on vit très bien la chose, quoi.
Et on voit peut-être là comment, du coup, progressivement, vous dites est-ce que c'est ma vérité, mais ça renvoie à cette grande question de savoir comment est-ce que la mémoire individuelle peut s'inscrire dans la construction d'une mémoire collective et donc d'un patrimoine. C'était là tout l'enjeu, en fait, l'un des enjeux de cette émission, une des questions qu'on souhaitait se poser. Est-ce que d'ailleurs, dans la salle, vous souhaitez poser des questions ? Oui, nous avons une question.
Alors, j'en aurai deux. Une première, effectivement, à Monsieur Tipa, vous dites c'est ma mémoire, mais est-ce que vous l'avez confrontée à celle de votre mère, notamment ? Et est-ce qu'elle n'aurait pas un autre récit à raconter de cette période-là qui, parce que finalement, en tant qu'enfant, on ne se souvient pas de la même chose ou on ne le vit pas de la même manière, et elle pourrait peut-être se dire, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, ça construit, ça contribue à construire l'histoire à partir de fragments d'histoire. Et ma deuxième remarque et question, c'est un peu provocateur, mais qui ça intéresse, tout ça ? À part les personnes qui l'ont vécu et qui veulent le transmettre et tout ça, moi, je vois l'intérêt pour des historiens par la suite, pour se dire que c'est pas une personne qui nous a raconté ce qui s'est passé, mais c'est un ensemble de personnes qui nous permettent de reconstruire l'histoire. Mais voilà, qui ça peut intéresser ?
Alors, je commencerai par répondre à la deuxième question. Qui ça peut intéresser ? En fait, je n'ai pas écrit ce récit pour intéresser les gens, en fait. C'était juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moyen de partager dans le cercle familial. Mais en même temps, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, j'étais pas le seul enfant. Pendant plusieurs années, j'ai eu des copains de classe qui maintenant sont sur mon grand-père comme moi. Et peut-être qu'eux aussi, eux aimeraient avoir ce genre de souvenirs, même si ce n'est pas les mêmes que moi, bien évidemment. Mais je sais qu'on a vécu en commun beaucoup de choses, que ce soit des copains de sport, parce que je faisais un peu de basket, des copains de catéchisme, des copains d'école surtout. On était quand même plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines au cours de ces années. Et je sais que quand je m'en vais sur les sites d'Internet comme ça, je vois beaucoup de sites de gens qui se recherchent, qui essayent de se retrouver. Moi, j'ai vécu à Tunis en 1967, si je peux trouver quelqu'un. Et même, des fois, les noms sont cités. Donc voilà, c'est pas vraiment ce livre ou mon récit n'est pas vraiment pour intéresser le plus grand nombre. Mais je souhaite quand même que d'autres peut-être un jour puissent se retrouver déjà à travers cette émission, peut-être, pourquoi pas, être intéressés par tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ces échanges très fructueux. Et puis je pense quand même qu'on est toujours l'exilé de quelqu'un, on est toujours en exil quelque part, de toute façon on n'est jamais vraiment installé à vie dans sa vie, on est toujours les choses peuvent basculer tellement vite que tout peut basculer, voilà. Quant à la première question, par rapport très rapidement, par rapport à ma mère, c'est sûr qu'elle n'aura pas le même récit, puisqu'elle a vécu, elle, toute son enfance, toute sa jeunesse, toute sa vie de jeune mariée. Et peut-être qu'elle idéalise peut-être encore plus que moi. Et bien évidemment, elle n'a pas le même ressenti que moi. Mais ceci dit, quand elle a lu mon livre, elle n'a pas émis d'objection et ne m'a pas dit qu'il y avait des erreurs flagrantes. Donc, pour l'instant, voilà, je pense qu'elle est. Elle acquiesce par rapport à ce que j'ai écrit. Voilà.
Peut-être que donc votre participation à cette émission fera naître des envies à certains de vous contacter pour justement croiser peut-être leur propre parcours. Emmanuel Ligné, est-ce qu'on peut encore vous appeler si on a envie de témoigner au sujet de l'histoire de ce quartier à Grand-Cuvier ? Alors d'ailleurs, il faut peut-être préciser le nom du quartier en question pour les auditeurs qui ne connaissent pas.
Le quartier, du coup, c'est le bourg de Grand-Cuvier. En fait, le quartier, oui. c'est même. D'ailleurs, les gens détestent qu'on dise le vieux bourg, puisqu'en fait, là où on a créé la ville nouvelle, puisqu'en fait, pour eux, Grand-Cuvier, c'était le bourg. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne cette zone du bourg qui était directement rattachée aux usines et à cette zone qu'on appelle aujourd'hui Céveso. Et bien sûr, les gens peuvent continuer à me contacter, soit directement via mon site internet, soit en passant par la direction de la culture de la ville de Grand-Quevilly.
Votre site internet, donc www.emmanuelligner.fr, si je ne me trompe pas.
C'est ça, merci.
Johan Younes, vous étiez aussi, enfin, lorsqu'on a préparé cette émission, vous me parliez aussi d'un travail en préparation qui pourrait donc venir valoriser vos travaux précédents en tant que docteur. Cette fois-ci, vous avez travaillé sur les lieux de culte musulmans à Rouen. Vous allez bientôt, enfin, on va pouvoir profiter des fruits de ce travail aussi.
Alors effectivement, dans le cadre de ma thèse soutenue en 2019, j'ai essayé de retracer les racines historiques des lieux de culte musulmans. L'idée, c'était de retracer cette dynamique des années 70 à 2000, jusqu'à 2013 même ensuite. Et donc du coup, l'idée peut-être serait de faire hommage à ces centaines de primo-migrants qui ont contribué à l'élaboration de ces lieux de culte et qui, au cours de ces deux dernières années, dans le cadre du Covid, ont été nombreux, nombreux à être victimes du Covid. Et de là est née une demande qui m'a été exprimée par un des responsables associatifs et de mosquées sur l'agglomération, de laisser une trace probablement. Et à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on parlait de mémoire passée sous silence, de mémoire pas forcément qu'on veut toujours entendre. Et dans un contexte où les débats sont très passionnés, des positions très polarisées, binarisées, je dirais, je pense que ça peut être un bon moyen de créer une histoire de tous pour tous, quoi, et de pouvoir enfin se comprendre sur certaines questions qui tendent à diviser principalement. Donc c'est un projet qui a été énoncé. C'est l'avenir qui nous dira si il verra le jour.
On suivra ça donc avec une grande attention. Je vais vous remercier donc tous les trois pour avoir participé à cette émission qui était passionnante. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la radio HDR et en diffusion aussi, je crois, sur la radio. Et elle fera l'objet aussi d'un podcast qui sera mis en ligne sur le site de la métropole, métropole-rouen-normandie.fr. Vous aurez d'ailleurs, en plus du podcast de cette émission, des compléments issus des différents entretiens que nous avons pu mener pour préparer l'émission. Merci à toutes et à tous et à bientôt.
Merci.
Vous écoutez HDR.
C'est sur le 99.1.
99.1.
I can't look enough at you. daughter, your daughter, from Venturian border, a come.
Le mix des cultures
99.1. Vous écoutez HTR, c'est sur le 99.1.
Thank you. views gotta make you ignite. Her name was Moo and she left me all alone to expand. We all want.
Mast mast jhule lal kalandar mast mast jhule lal kalandar.